Drainville PM. Politique.
Il y a des juristes qui prétendent que c'est pas nécessaire, d'autres qui prétendent que c'est nécessaire. Je pense que ce qui est clair, c'est que si c'est nécessaire, on va utiliser la clause dérogatoire. On est prêt à aller jusque-là.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
C'était François Legault au caucus de la CAQ ce matin. Ça se déroule dans la région de l'Outaouais où la CAQ a fait une percée aux dernières élections. Il parlait, Legault, de la clause dérogatoire parlait du projet de loi, en fait, sur les signes religieux qu'ils vont déposer, la CAQ, dans les prochaines semaines. Puis là, il disait, ben écoutez, les clauses dérogatoires, il y a un débat, mais si c'est nécessaire d'aller là, on va y aller. Paul Journet, éditorialiste à la presse.
Salut.
Salut. Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour.
Bonjour.
Alors, mon cher Journet, on est encore là-dedans?
On n'en sort pas.
Hein? 10 ans plus tard.
C'est comme des sables mouvants. Plus tu essaies de te déprendre, plus tu t'enfonces profondément.
On parle des signes religieux, là, parce que Bouchard est là. Le rapport date quand même de 2007, puis on est rendu en 2019.
Oui.
Ah oui.
Écoute, moi, je vous donnerais comme cible 2030. ben oui, mais il y a du mouvement.
Il est optimiste. Arrête toujours. Ne soyons pas cyniques, messieurs.
Mais il y a du mouvement. Moi, je suis le premier à dire qu'on est en train de refaire le même débat, mais aujourd'hui, pas tout à fait, parce qu'à l'intérieur des partis, la réflexion se poursuit et il y en a qui songent à changer d'idée. La semaine prochaine, les partis retournent à l'Assemblée nationale, ils font leur caucus de pré-session et ils se rencontrent entre eux et ils parlent. Et tu vois qu'il y a du mouvement, entre autres, à Québec solidaire, où il y a la position traditionnelle du parti, qui était celle d'Amir Kadir et Françoise David, qui se ralliaient au compromis Bouchard-Taylor. Mais là, c'est un autre Québec solidaire. Les deux députés sont plus là, on en a 10 nouveaux. Puis il faut rappeler que c'est une position parlementaire. Là, maintenant, ça va être une position des militants eux-mêmes. Donc, les militants, ils vont se prononcer en mars. Puis tu vois qu'il y a un malaise dans le caucus. Là. Oui, il y a un malaise dans le caucus, mais...
Je pensais que tu voulais lancer une clip, là. Je m'excuse.
Non, je pensais que Carl voulait réagir. Mais
il faut rester...
Plus que dans le caucus, je veux dire, les malaises sont un peu généralisés dans l'ensemble des partis. Puis ça va faire des débats plutôt mouvementés... Puis ça va être dans tous les partis, sauf peut-être au PQ, je pense.
Carl, ça va?
J'ai un petit rhume.
un petit rhume, tu dis? Alors, on est avec toi, OK? On va se rendre jusqu'à 59-30, ça va bien aller.
Bon, pendant que Carl se prend une puff de NyQuil, oui. J'enchaîne avec le Parti libéral aussi, où on croyait que la position, elle était cimentée, c'était non à l'interdiction.
C'est ça.
Mais tu vois qu'à l'intérieur, il y en a qui sont en train de réfléchir. Puis ça me semble étrange parce qu'on dirait pas que c'est tant qu'ils sont en train de réfléchir sur le principe, mais ils réfléchissent sur la stratégie qu'ils constatent qu'ils ont été déconnectés de l'électorat francophone. Mais là, il y en a, on se demande si on accusait ceux qui étaient en faveur de la charte de vouloir marquer des points politiques avec ça. Mais là, je me demande si c'est des libéraux qui, eux, inversement, essayent de se rapprocher de la majorité francophone. Et l'endroit où c'est le plus significatif, la réflexion, ben c'est la CAQ, c'est eux qui sont au pouvoir. Et en ce moment... La clause des droits acquis, la clause grand-père, ça fait débat. On le disait, la CAQ songe à offrir ça comme compromis. Donc, ce que c'est la clause grand-père, c'est que si on interdit le port de signes religieux aux enseignantes et aux enseignants, ben ceux qui sont déjà en poste, grâce aux droits acquis, ils ne perdraient pas leur emploi. Je dis pour les enseignants, parce qu'on ne connaît pas de cas jusqu'à preuve du contraire, peu ou pas, pour les policiers, procureurs de la couronne, gardiens de prison.
Et juges.
Oui, exact.
Mais juste préciser, parce qu'au début du segment, on a entendu Legault sur la clause dérogatoire.
Exact, ouais.
Là, tu nous parles de la clause de droits acquis. Il faut faire la distinction entre les deux. La clause dérogatoire, ça veut dire, si on introduit ça dans le projet de loi, ça veut dire que ceux qui vont vouloir le contester devant les tribunaux ne pourront pas le faire. Ou en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile de le faire. On déroge à la Charte canadienne des droits. Ça, c'est une affaire. Ça, c'est un type de clause. Legault dit, on verra si on l'introduira ou pas. On est prêt à aller jusque-là. L'autre débat, c'est sur une autre clause de droits acquis, c'est-à-dire ceux qui en ont déjà un au moment où la loi est passée, pourraient le conserver.
Puis ça, c'est un débat immédiat qui touche le monde. On le sait, il y a des enseignantes et des enseignants qui portent des signes religieux. En ce moment, ils sont inquiets, on les comprend. Ils se disent, là, est-ce que vous allez adopter une loi qui va me faire perdre ma job?
C'est ça.
Puis c'est de ça dont les députés parlent entre eux. Puis il y a eu des citations. Tu le vois qu'il y a des gens à la CAQ qui sont ouverts à la clause de droit acquis, par principe.
Ouais.
D'autres qui se disent que ça pourrait être un bon compromis.
Ouais.
Puis il y en a qui disent non, qui ont une position pas mal plus ferme. D'autres pourraient dire intransigeante. Il y a une citation de Claire Samson ce matin qui disait, chaque fois que le gouvernement fait une loi, il y a un rêve en quelque part qui est brisé. Donc, il y a des gens qui pourraient perdre leur job.
Vas-y, Carl.
Mais l'important là-dedans, c'est vraiment la volonté de François Legault d'utiliser la clause dérogatoire. Parce que en bout de ligne, ce qu'il y a derrière ça, c'est une volonté de mettre fin au débat et de passer à autre chose. Parce qu'un coup que t'emploies la clause dérogatoire, évidemment, c'est bon pour 5 ans. Tu me diras, ça va revenir dans 5 ans. Sauf que un gouvernement qui décidera de se retirer de ça aura toute une tempête à traverser. Donc, quand François Legault va trancher et quand il va décider d'utiliser la clause dérogatoire, ça pourrait potentiellement mettre fin au débat.
Mais tu vas voir, on peut l'écouter, puis il a l'air assez enthousiasmé par l'idée. Il se dit, si c'est utile, je vais là.
Je l'ai dit, je veux essayer de collaborer le plus possible avec les partis d'opposition. Donc, Simon-Jolin Barrette là, va répondre à l'invitation, entre autres, de Pascal Bérubé, de rencontrer les gens du Parti québécois. C'est sûr que si on est au moins deux partis à défendre les mêmes positions, ça peut aider. Mais il y a des arguments pour ne pas avoir le droit acquis, puis c'était la position de la CAQ. Donc, il n'y a rien de tranché pour l'instant, mais on va trancher dans les prochaines semaines.
Et avant de trancher, il va écouter le caucus, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui ou demain, là, mais en tout cas, dans ce caucus, en Outaouais, ils vont en parler, les députés. Là.
Mm.
Ils vont aller au microphone, là, je sais comment ça marche. Puis l'un après l'autre, ils vont dire, ben moi, je suis plutôt ci, moi, je suis plutôt ça, plutôt pro, plutôt contre. Puis ultimement, c'est le Conseil des ministres et le premier ministre qui vont décider.
Oui, tout à fait. Mais on pourrait rappeler à ceux qui se demandent si c'est une bonne idée ou non que même des gens qui, dès le départ, étaient fermement en faveur d'une charte de la laïcité, comme Guy Rocher, était pour les droits acquis, la clause de droits acquis, même Jean-François Lisée,
exact. Une
dernière campagne électorale. Donc, même le Parti québécois disait, on veut une clause de droits acquis, on veut pas congédier des gens.
En terminant, Carl, sur ce sujet-là,
ben, écoute, c'est sûr que ça sera pas facile, là, mais ce que je retiens vraiment, c'est la volonté de François Legault de dire « je vais trancher ». Donc, il va écouter les gens, il va écouter son caucus, il va écouter l'opposition. L'opposition fera ses propres débats, mais Legault veut passer à autre chose rapidement parce que c'est pas vraiment ça le centre de son action politique.
On s'entend. Non, c'est ça. Lui, c'est l'économie, on s'entend. Là. C'est voilà. L'économie et l'éducation, je pense que c'est ça, ces deux grandes priorités. Vite, 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 avant d'aller à Carl, parle-nous, Paul, donc, de le registre des armes. Hein? Les chasseurs avaient jusqu'à hier minuit pour s'inscrire sans subir de pénalités. Là, à partir de minuit et une, les pénalités s'appliquent. Si tu te fais prendre avec une arme qui n'est pas enregistrée, tu vas payer un ticket.
On s'applique à pas mal de monde. Mauvaise nouvelle, il y a seulement 23% des armes qui sont enregistré. On le sait, on en a parlé, le gouvernement caquiste a fait des concessions aux propriétaires d'armes. Il y a des règlements, probablement un projet de loi qui vont être déposés sur des détails, par exemple, le nombre de journées pendant lesquelles tu peux t'absenter sans rapporter ton absence avec une arme, ou si l'imposition de mesurer la longueur de ton canon, des trucs comme ça.
On pensait que ces compromis, hein, ces trois assouplissements allaient amener un mouvement fort des chasseurs pour aller inscrit, puis ça s'est pas vraiment produit.
Pas encore. Peut-être qu'il reste encore une couple de journées pour que l'aiguille bouge, mais il faut rappeler à ceux qui sont irrités par le registre qu'il y a vraiment eu une concession très, très significative, une preuve de bonne foi faite par la ministre Geneviève Guilmeault.
Ouais, mais moi,
je devrais y répondre.
Mais quand les chasseurs m'écrivent là-dessus, là, ceux qui sont contre, là, ils sont encore contre, puis ils jugent que c'est des peccadilles, les concessions qui ont été faites. Il y en a beaucoup qui m'écrivent ça. Moi, je suis surpris par la virulence de l'opposition à l'inscription au registre. Je pensais qu'il allait avoir quand même... Comment je te dirais ça, une espèce de gros bon sens qui allait finir par s'installer, que les gens allaient finir par se rendre à l'idée que si tu veux, la loi, c'est la loi. Mais je suis surpris par la force de l'opposition.
Parce que Geneviève Guilmeault a fait son bout de chemin.
Oui, elle
l'a fait. Très bien
fait
son travail.
Là, la question qui se pose, c'est est-ce que la loi va être appliquée? Dans quelle mesure on va aller à la chasse aux armes non enregistrées?
Ah non, ça, ils ne feront pas. Mais si tu te fais prendre à la chasse, par exemple, par un garde de chasse, tu te fais contrôler, puis ton arme n'est pas enregistrée, tu vas payer le ticket, bonhomme, là.
C'est ça. Il n'y aura pas d'opération ciblée.
Non.
Ça va être vraiment dans le day-to-day. Comme
exact, dans le quotidien. Alors, parle-nous un petit peu, mon Carl, avec toute l'énergie que tu as. Hein, la saga de Nicolas Diorio, ce député libéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, ça a pris finalement fin. De quelle manière?
Mais il a finalement démissionné de son poste hier, son poste de député libéral de Saint-Léonard-Saint-Michel. On rappelle qu'il a annoncé ça en avril, ça a été repoussé à plusieurs reprises. Il se présentait même plus en chambre, là. Il est venu une ou deux fois cet automne. Puis là, hier, il a fait un discours bizarre, décousu, rempli d'amertume. On peut écouter ce que ça donnait.
Je crois à mon pays, en ses valeurs et à mon obligation de ne pas reculer devant le danger afin d'en assurer la pérennité. Et je rappelle que je suis le premier député de l'histoire à être venu travailler en voiture toute électrique sans réservoir de carburant fossile. Il est à se demander qu'aurais-je pu faire de mieux dans mon contexte.
OK.
Donc, peut-être qu'il aurait pu se présenter au travail dans son contexte, mais bon, il a décidé de pas le faire. Là,
on va faire attention parce que moi, Carl, je suis pas médecin, là, puis, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus fondamental là, dans la condition de M. Diorio. Je pense qu'il faut faire attention pour ne pas aller trop loin dans nos commentaires négatifs parce que je me demande s'il n'y a pas une condition là, dont on ne connaît pas l'existence.
Ce n'est pas impossible. Je ne suis pas au courant de quelques conditions ou que ce soit. Cependant, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette saga? Monsieur Diorio a annoncé en avril, c'était répondu à plusieurs reprises, et comme par hasard, là, quand ils ont eu une entente avec le bureau du Web libéral, c'était après la date limite pour le déclenchement des élections partielles.
Mais ça, c'est clair que ça a été arrangé avec le gars des vues, là.
Mais pourquoi?
Ça, c'est clair que ça a été arrangé avec le gars des vues, là. Il a démissionné après la date pour que Trudeau soit pas obligé de tenir une partielle.
Mais pourquoi? C'est un siège libéral. Sur Saint-Léonard-Saint-Michel. Ça serait facile pour les libéraux de remporter cette élection partielle. Alors moi, je pose des questions. J'ai une théorie qui commence à se mettre en place. Et la théorie est la suivante. C'est que au moment où Nicolas Diorio a fait une annonce qu'il allait démissionner de son poste, il y a des gens dans le comté de Saint-Léonard-Saint-Michel qui sont mis à vendre des cartes de membres, notamment la communauté musulmane. Et il semblerait que le Parti libéral aurait peur de perdre le contrôle de l'association et se faire faire ce qu'ils sont fait faire dans le côté à côté de Saint-Laurent-Cartierville, où c'est la communauté grecque qui a placé sa candidate au détriment de la candidate privilégiée par Justin Trudeau, qui était Yolande James à l'époque.
Et là, l'establishment du Parti libéral aurait, dans le fond, amené, on ne sait pas trop comment, Diorio à retarder sa démission parce qu'ils ont peur, dans le fond, de perdre le contrôle du comté. Ils ont peur de... Parce qu'on peut penser que Trudeau aurait une candidature à placer là, c'est ça?
Mais c'est un comté facile, donc on peut attirer une vedette qui n'aura pas à travailler trop fort pour gagner. Sauf que si on fait face à une communauté bien organisée, qui pourrait remplir la salle et remporter l'investiture. Du côté de Justin Trudeau, on veut pas que ça arrive. Donc, on a mis les deux pieds sur le frein pour pas avoir de partiel, pas avoir d'investiture et de contrôler ça jusqu'à l'élection générale.
Intéressant, Carl Bélanger, comme hypothèse. On verra si elle se vérifiera parce qu'éventuellement, il y aura quelqu'un qui va se présenter à l'investiture. Merci, Carl. Soigne-toi. Merci, Paul Journet.
Merci. Salut.